Chapitre 7. Sherman Oaks comptait davantage de citoyens de plus de 65 ans que les communes voisines. La moyenne du nombre de personnes par foyer, tout juste égale à 2, était parmi les plus faibles de Californie du Sud. C'était une bourgade tranquille, en particulier dans le quartier des villas accrochées à la colline. La demeure qui intéressait Jane avait une façade en briques aux ouvertures et aux frontons sculptés. Deux lions montaient fièrement la garde de part et d'autre des marges du perron, comme dans une bibliothèque ou un tribunal. L'image était d'autant plus curieuse que l'occupant des lieux ne s'intéressait nullement aux bibliothèques et s'estimait trop malin pour tomber entre les griffes des juges. Des luminaires bordaient l'allée. Près de la porte, une lanterne enveloppait la véranda dans une lueur douce et une lumière chaude filtrait des fenêtres du rez-de-chaussée. L'étage, en revanche, était plongé dans le noir. Deux ans plus tôt, alors qu'ils avaient respectivement 54 et 53 ans, les propriétaires de la maison avaient choisi de s'installer à Scottsdale, en Arizona. Richard et Bernice Branwick devaient cette retraite au soleil à leur fils unique, Robert, qui avait fort bien réussi dans la vie et continuait d'occuper leur maison. Jane se gara un peu plus loin et observa longuement la propriété. Aucun agent de sécurité ne serait posté à l'extérieur. Ce n'était pas dans la culture d'un quartier dont les habitants auraient immédiatement alerté la police s'ils avaient entreaperçu la moindre silhouette suspecte. Sherman Oaks était placé sous la juridiction du commissariat de Van Nuys, sur Sylmar Avenue. Robert Branwick, qui se sentait en sécurité dans son quartier, s'était contenté d'installer une alarme afin d'éloigner les cambrioleurs. Jamais il ne serait resté là s'il avait pu se douter qu'elle connaissait son nom et son adresse. Jamais de la vie. Peut-être vivait-il seul, mais Jane en doutait. Les individus de son acabit ne prisent guère la solitude. Cela les obligerait à se poser des questions sur eux-mêmes. Un peu plus haut dans la rue se dressait la silhouette sombre d'une maison dont les occupants étaient manifestement absents ou sortis pour la soirée. Jane enfila ses gants noirs et argent, traversa la rue et contourna prudemment le bâtiment, au cas où les propriétaires auraient eu un chien. Le jardin de la propriété, bordé par un mur des deux côtés, n'était pas clos à son extrémité, la pelouse laissant place à un petit bois qui surplombait un ravin. Les arbres argentés par la lune n'étaient pas sans évoquer une forêt inquiétante, imaginée par un peintre aux instincts sinistres. La propriété voisine était protégée par un mur crépi le long duquel elle se glissa, une mini-torche à la main, jusqu'à l'enceinte de la maison des Branwick. Elle éteignit sa lampe. Aucune porte ne perçait le mur, mais celui-ci, haut de 2 mètres, était facile à escalader. Elle se hissa au sommet et observa le jardin plongé dans l'obscurité. Rassurée, elle se laissa tomber sur la pelouse et contourna la piscine sur l'eau sombre de laquelle se reflétait une lune brisée. La lumière qui filtrait de l'une des fenêtres éclairait faiblement le patio et Jane distingua à travers les carreaux une cuisine prolongée par un recoin réservé au petit déjeuner. Les deux pièces étaient désertes. La cuisine communiquait avec le salon télé. Un couple installé dans un canapé gris regardait une scène de poursuite sur un grand écran fixé au mur. Un rugissement de moteur souligné par une musique rythmée parvint à Jane à travers les vitres. Elle s'approcha de la porte de la cuisine, qu'elle trouva verrouillée. La musique ne suffirait pas à couvrir le bruit que risquait de provoquer son pistolet crocheteur, surtout si la course-poursuite prenait brusquement fin. Elle poursuivit son exploration et finit par découvrir une porte-fenêtre ouvrant sur un petit jardin où 2 chaises en fer forgé flanquaient une fontaine en sommeil. La pièce dans laquelle donnait la porte-fenêtre était plongée dans la pénombre, mais le peu de lumière en provenance du couloir voisin lui indiqua qu'il s'agissait d'un bureau meublé d'une table, d'un fauteuil et de rayonnage. D'un éclair de sa torche, Jane constata que la porte-fenêtre était équipée d'une serrure encastrée. Elle s'empara du pistolet crocheteur attachée à sa ceinture à l'aide d'un lacet, dont elle glissa l'extrémité pointue dans la fente réservée à la clé. Elle appuya sur la détente à 4 reprises, afin de libérer les goupilles l'une après l'autre, retira de la fente l'embout du pistolet et poussa la porte qu'elle referma après s'être introduite silencieusement dans la pièce. Elle distingua la forme d'un ordinateur sur le bureau et reconnut, en guise de livre sur les étagères, des figurines Star Wars. Une rumeur de crissement de pneus, de vrombissements, de coups de feu et de musique fébrile lui parvint des profondeurs de la maison. Elle s'aventura dans le couloir, brillamment éclairé, le temps d'une rapide opération de reconnaissance. Le hall d'entrée donnait sur une salle à manger, d'un côté, et un grand séjour de l'autre, tous deux éclairés et inoccupés. Elle rebroussa chemin et atteignit la cuisine, au moment où une jeune femme blonde s'avançait dans la pièce en lui tournant le dos, sans se douter de sa présence. L'inconnue, vêtue de façon aguicheuse d'un pantalon de soie moulant et d'un chemisier en dentelle qui s'arrêtait au-dessus du ventre, ouvrit la porte du réfrigérateur. Jane remisa dans son étui le pistolet qu'elle tenait à la main, tira de sa poche un vaporisateur rempli de chloroforme et passa d'un bond devant l'ouverture qui donnait sur la pièce télé en espérant que l'homme, hypnotisé par l'écran, ne l'aperçoive pas. La fortune sourit aux audacieux, dit-on, le plus souvent à juste titre. Jane s'approcha sans un bruit de la blonde qui hésitait entre 5 sodas différents devant le frigo ouvert. « Pepsi ?» lui glissa Jane à l'oreille avant qu'elle n'ait pu prendre une canette. Surprise, la jeune femme se retourna d'un bloc et reçut un jet de chloroforme en pleine figure. Le liquide douceâtre arrosa sa bouche nacrée de rouge et s'introduisit dans ses narines, puis ses yeux écarquillés se révulsèrent sans qu'elle ait poussé un cri. Jane lui passa un bras autour de la taille et la maintint contre le réfrigérateur, tout en posant le flacon de chloroforme sur le plan de travail, avant d'allonger lentement sur le carrelage le corps inanimé de la jeune blonde. Le chloroforme est un produit extrêmement volatile. La quantité inhalée par l'inconnu la maintiendrait inconsciente quelques minutes seulement. Jane déchira 2 feuilles de papier absorbant d'un dérouleur, les aspergea de chloroforme et les posa sur le nez de la fille endormie. Rassurée sur le fait que celle-ci pouvait respirer en voyant le papier absorbant se soulever légèrement à chaque expiration, elle rempocha le vaporisateur, sortit son pistolet et s'approcha de la porte permettant d'accéder à la pièce télé. L'homme n'avait pas bougé du canapé, les pieds sur une table basse, captivé par son film. Sur l'écran, un motard en poursuivait un autre sur une autoroute en zigzagant entre les voitures. La cacophonie ambiante se chargea de masquer son approche. L'une des 2 motos bascula dans le vide au bord d'une falaise, et la seconde s'arrêta à la dernière seconde dans un hurlement de frein. La BO pompeuse laissa place au silence de façon à mieux souligner la chute mortelle. « Tu as des oréos, Bobby ?» demanda Jane. Sa voix était forcément différente de celle de la blonde évanouie dans la cuisine. Mais l'homme se contenta de répondre par un geste agacé de la main en grommelant « Oui, oui !» alors que le motard en chute libre échappait miraculeusement à la mort lorsque son sac à dos laissait échapper un parachute dont la corolle salvatrice s'épanouissait lentement dans le ciel. Elle lui tapota le crâne avec le canon de son calibre 45.
« Quoi encore ?» s'énerva-t-il en se retournant.
Il bondit du canapé en reconnaissant Jane et faillit tomber en se prenant les jambes dans la table basse. « Tu as essayé de me coincer dans le parc. Tu t'es surtout fichu de moi avec cette dernière information concernant Chenec. Un bordel d'un genre particulier, sans autre précision. J'aurais quelques questions à te poser. Soit tu y réponds, soit je te colle une balle dans la tête. Compris, Robert ? Ou Jimmy ? Je te laisse le choix du prénom. »